La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui, mardi, deuxième épisode de notre série consacrée à l'écrivain Michel Houellebecq. À l'origine, il y a cette enfance et cette jeunesse d'un garçon délaissé par ses parents, élevé loin d'eux par sa grand-mère, qui a peut-être connu des brimades et des moqueries similaires à celles du personnage de Bruno dans Les Particules élémentaires. Puis il y a une entrée sans enthousiasme dans la carrière d'informaticien et enfin la publication de poésie et de romans ouvrant sur un succès mondial. Tout cela, nous l'avons raconté hier, c'était avec Agathe Novak-Lechevalier. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast. Jeudi, nous reparlerons de poésie, mais cette fois avec Thomas Clerc qui nous dira comment il la lit et pourquoi il la défend. Il sera rejoint en seconde partie par l'architecte Clémentin Rachet, auteur d'un livre sur Houellebecq et la ville aux éditions B2. Demain, nous serons en compagnie de l'universitaire Bruno Viard qui nous parlera du moment 68 tel que le voit Michel Houellebecq, ainsi que des contradictions à l'œuvre chez l'écrivain. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une émission en deux parties. Après la chronique de Georges-Marc Habib, je recevrai l'écrivain et journaliste Jacques Henrich, qui fait partie des contributeurs au cahier de l'air de Houellebecq qui vient de sortir. Et en première partie, il est déjà là, dans ce studio avec moi, c'est Raphaël Sorin, l'éditeur qui a construit une bonne partie du succès de l'écrivain depuis Les Particules élémentaires en 1998 jusqu'à La possibilité du Nil, c'était en 2005. Quant au tout premier de ses romans, eh bien c'est Maurice Nadeau qui l'avait publié, on l'écoute.
Je l'ai fait patienter pendant un an, en effet, parce que je perdais beaucoup d'argent, j'en ai toujours perdu partout, partout où je suis passé. Et là, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de particulier. Mais il s'est accroché, il m'a dit « Ah, vous avez publié Pérec autrefois, les choses, bon, moi je suis le Pérec d'aujourd'hui. » Je lui ai dit « Vous êtes culotté un peu, mais enfin bon, je verrai, très bien, enfin j'ai fait patienter un petit peu. » Jusqu'au moment où il m'a envoyé sa compagne, sa femme, qui m'a dit « Vous n'avez pas honte ?» avec un livre comme ça, de ne pas le publier. Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez ? Je dis, il est chez un éditeur. Vous êtes, vous aussi, chez un éditeur. Et en effet, ils travaillaient tous les deux chez un éditeur. Houellebecq avait publié un livre sur un auteur de science-fiction, je ne sais plus comment il s'appelait. Elle dit, oui, mais justement, ils n'en veulent pas, de ce livre. Alors, poussé de tous les côtés, je me suis dit, il faut quand même que je me décide. Alors, je l'ai publié.
Maurice Nadeau, l'éditeur du premier roman de Michel Houellebecq, extension du domaine de la lutte, interrogé par Laure Adler, c'était en 2010. Bonjour Raphaël Sorin.
Bonjour, bonjour.
C'est le Pérec d'aujourd'hui, Michel Houellebecq ?
Non, il n'y a aucun rapport. Bon, la gloire peut-être, l'expansion du domaine de la célébrité, mais sinon c'est très différent. Bon, moi, il se trouve que j'ai aussi connu Pérec. Hein. Et j'ai lu Pérec très tôt, j'ai eu les choses tout de suite, mais en lisant le premier roman de Houellebecq, je n'ai pas pensé aux choses du tout. J'ai pensé à autre chose.
Vous avez pensé à quoi ?
J'ai pensé à rien, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que ça ne ressemblait à rien du tout. Et ça ressemblait un peu à la science-fiction très vite. C'est pour ça que j'ai publié Les Particules élémentaires. Et Nadeau ne se souvient pas, par exemple, du titre, enfin, de l'auteur qu'aimait Houellebecq entre tous. C'était Lovecraft. Et moi, j'aimais bien Lovecraft avec des réserves, parce que Lovecraft est horriblement raciste, horriblement réactionnaire, mais en même temps, il peut être fascinant.
Houellebecq avait écrit un livre sur Lovecraft.
C'est sur Lovecraft. Et quand on le relit aujourd'hui, c'est assez étonnant, parce qu'il y a déjà un peu tout son programme, hein, son programme littéraire, je ne parle pas du programme politique.
C'est-à-dire ?
Il y a une certaine noirceur, une description assez sauvage des relations entre les gens, Et il y a un autre auteur qui a compté aussi pour Houellebecq, auteur de science-fiction que moi j'aime énormément, qui est Simak, avec un livre magnifique qui s'appelle « Demain les chiens ». Et si on veut trouver des modèles à Houellebecq, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher.
Alors Maurice Nadeau qu'on vient d'entendre, qui a donc édité ce roman, extension du domaine de la lutte, il notait dans son journal en public en juillet 1998, alors qu'il venait de lire Les épreuves des particules élémentaires, le deuxième roman de Michel Houellebecq, un petit paragraphe qui vous concerne, peut-être oui, le connaissez-vous, je le redonne pour les auditeurs. Quel dommage que notre ami Raphaël Sorin ait été si pressé. Ne pouvait-il pas laisser à Michel le temps d'accoucher la grande œuvre qu'il porte et d'éviter par là démagogie et bavardage? On peut le trouver, cette référence, aux éditions La Quinzaine littéraire.
On lui pardonne parce que c'est un vieux monsieur, mais c'est un menteur. Je dis carrément, il est mort. Hein. Parce que d'abord, c'est après un an et demi le temps des particules élémentaires. Et Michel Houellebecq a pu l'écrire parce que je l'ai financé. Enfin, en fait, la maison où je travaillais, on l'a payé pendant un an et demi pour l'écrire. Donc, c'était pas du tout se presser. Et entre-temps, j'ai payé un livre de lui que n'aimait pas du tout Nadeau. C'était ses poèmes. Parce que moi, j'ai aimé tout de suite les poèmes. Et Nadeau a prétendu que j'avais publié les poèmes parce que je rêvais de publier les romans de Houellebecq. Ce qui est complètement faux. Donc, faut pas croire ce que racontent les vieux messieurs.
Mais d'où vient, simplement pour essayer de la comprendre, hein, d'où vient cette critique? Pourquoi finalement cette critique a-t-elle eu une résonance? Est-ce que vous le comprenez, vous, au-delà de l'amertume?
Non, je ne comprends pas, c'est de l'amertume pure. Et ça, c'est un peu normal qu'un éditeur, voyant que son auteur, qui aurait pu faire sa fortune, l'échappe, il n'a pas bien réagi, Nadeau. D'ailleurs, je lui ai dit à l'époque, je ne lui ai pas écrit, parce que moi, je ne réponds pas comme ça, mais un jour, j'ai rencontré, et je lui ai dit, je comprends pas que tu réagisses comme ça, parce que bon, c'est vrai que moi, j'avais des moyens financiers, grâce à Flammarion, de payer Houellebecq pendant un an et demi, et de bien le payer, puisqu'il a pu arrêter de travailler pour la Chambre des députés. Alors, il a arrêté son travail d'informaticien, donc on a financé, c'est comme un producteur qui finance un film, on a financé Houellebecq. Et ça, Nadeau n'avait pas les moyens de le faire. Donc je pense que la réaction de Nadeau est un peu lamentable. Bon, il est mort maintenant, on ne va pas s'expliquer avec un mort.
Alors qui a découvert finalement Michel Houellebecq, puisque aujourd'hui, a posteriori, plusieurs personnes se réclament finalement de la découverte de cet écrivain-là. Ouais. Pour vous, qui est le découvreur de Michel
Houellebecq? Pour moi, la personne qui m'en a le mieux parlé très vite, qui continue à en parler très très bien, c'est quelqu'un qui maintenant est absent du paysage, qui est Dominique Noguez. Parce que Dominique Noguez avait connu Houellebecq très tôt. Il a d'ailleurs écrit un très bon livre. Le meilleur livre sur Houellebecq, c'est encore le livre de Noguez que moi j'ai publié après,
chez Fayard,
qui s'appelle Houellebecq en fait. Et je trouve que ce livre-là mérite.
En fait, F-A-I-T.
F-A-I-T. C'est un très bon livre d'abord parce que c'est à la fois un témoignage, c'est des extraits de son journal. Il a un journal littéraire, Noguez, il en a publié des extraits, et ça concerne la période où justement il est en relation avec moi-même et Houellebecq. Et puis surtout, il y a une analyse stylistique formidable. Il a compris enfin que Houellebecq, c'est pas simplement un sociologue. D'ailleurs, ce matin, j'ai encore entendu un personnage éminent, une savante, Elisabeth Badinter, disant que c'est un grand sociologue, elle est partie sur un développement, et c'est complètement idiot, c'est complètement faux, c'est une bourde, parce qu'il n'est pas sociologue, il est écrivain et poète.
Donc Dominique Noguez l'a découvert, il est l'un des premiers à avoir lu ses textes aux éditions de La Différence, oui, c'est donc absolument. Au départ aux éditions de La Différence qu'on a attrapé les premiers manuscrits de Michel
Houellebecq. Ils ont publié, vous savez... Quand on parle des débuts et tout ça, il y a toujours plusieurs personnes. Hein. Il n'y a pas un seul inventeur. Et c'est vrai qu'à la différence, il y avait un personnage intéressant qui était Joachim Vital, qui est une sorte d'aventurier. Bon, moi, je l'ai aussi bien connu, qui publie des tas de choses différentes. Et il se trouve qu'il a publié Houellebecq. Et après, il n'a pas pu continuer parce que c'est un problème aussi de finance. Hein. C'est comme dans le cinéma, le type qui dit moi, j'ai découvert Godard. Bon, oui, mais après, il faut suivre. Hein. Et là, heureusement, moi, j'étais en situation, grâce au patron de Flammarion, Charles Flammarion, à qui il faut rendre hommage, de donner les moyens financiers à Houellebecq de continuer et de passer à la vitesse supérieure.
Mais est-ce que ça signifie que dès que les manuscrits de Houellebecq ont commencé à circuler, il y a eu, chez un certain nombre d'éditeurs, pouvant ou ne pouvant pas le financer, le sentiment qu'on était là devant quelque chose de nouveau, d'original et d'important?
Non, il n'y a pas eu ça du tout. Il y a eu sur Extension du domaine de la lutte quelques bonnes critiques, quelques mauvaises critiques, ou pas de critiques du tout. Mais il n'y a pas eu, on ne s'est pas battu comme des chiens pour publier Houellebecq. Moi, je me suis trouvé en situation favorable, j'en ai profité, et il en a profité aussi, c'est tout.
Alors,
faut pas non plus réinventer le passé.
Oui, mais c'est pour ça que justement qu'on,
ben oui, mais qu'on vous interroge. Du tout. Mais je vous raconte les choses comme je les sens et comme j'y repense aussi, parce que ça m'a quand même, on m'a un peu pompé l'air avec ça en me considérant comme l'éditeur de Houellebecq. D'abord, je suis pas le premier éditeur de Houellebecq, et puis je ne suis pas que l'éditeur de Houellebecq. J'ai publié d'autres livres intéressants aussi et importants.
Ouais. Et donc, Dominique Noguez, revenons à lui, c'est lui qui a donné le manuscrit à Nadeau.
Oui, absolument.
Ouais. Donc, Houellebecq lui doit beaucoup.
Ben, il doit beaucoup à Noguez, et moi aussi, puisqu'après, j'ai embrayé. Et j'ai toujours estimé que Noguez était le meilleur analyste de l'œuvre de Houellebecq. Et il a encore prouvé avec ce livre, qui est un livre de circonstances, que j'ai publié chez Flammarion pour accompagner d'autres choses.
Alors Noguez, dans son livre, il dit de Houellebecq que c'est un déprimé joyeux. Est-ce que vous employeriez cette même expression ?
Oui, c'est, si on veut, oui. Déprimé, il est sûrement, avec des bouffées de rigolade. Hein. Bon, si, moi j'ai quand même passé 10 ans avec lui, et je l'ai vu abattu, plus bas que terre, déprimé, vaincu, et puis au contraire, il ressurgissait comme un diable hors de sa boîte, avec beaucoup d'humour. Donc c'est ça le personnage, hein. Il est double. Et ça, Noguez, qui est lui-même un peu double, puisqu'il est aussi écrivain, Noguez, il a ce côté aussi dépressif et joyeux. Donc ils se sont connus comme ça, ils se sont estimés comme ça.
Et dans le magazine Grand Seigneur, je continue à faire un portrait à travers vous de Michel Houellebecq, vous avez dit... Du point de vue psychologique, Houellebecq est un infirme. Qu'est-ce que ça signifie ?
C'est vrai. Il ne peut pas avoir des sentiments normaux, entre guillemets, avec les gens. C'est complexe. Hein. Je pense qu'il a été traumatisé dans son enfance. On ne va pas s'amuser à faire sa psychanalyse. D'ailleurs, je me souviens que quand De Montpion a essayé d'écrire un livre sur lui, il avait très peur que De Montpion trouve quelque chose. Bon, moi, j'étais contre ce livre. Je pense qu'un écrivain vivant ne doit pas écrire sa biographie. Il faut attendre qu'il meure et longtemps après. Mais De Montpion tournait autour. Il trouvait pas la solution. Il trouvait pas le truc. Et le truc, c'est Houellebecq. Je vais pas essayer de le trouver. Il y a une sorte de Rosebud. Il y a quelque chose dans son enfance, quelque chose de violent, qui fait que c'est un personnage clivé, comme on dit maintenant aujourd'hui. Mais à part ça, il écrit des livres. C'est présent, hein, c'est présent ce côté. Et il décrit des personnages qui passent de l'euphorie à la dépression.
Ça veut dire que ça, vous n'en parliez pas quand vous vous êtes côtoyés pendant 10 ans et quand vous avez travaillé ensemble sur ces livres?
De ce côté-là, si on parlait de... Et moi, j'ai beaucoup parlé au moment de la biographie de De Montpion. J'ai pas essayé de savoir ce que Houellebecq cachait, s'il cachait quelque chose. Mais je me suis opposé, j'ai refusé de témoigner, je me suis opposé à ce travail d'enquête. Je trouve que c'était inadmissible et c'était... trop tôt.
La semaine suivante, il se décida à montrer ses textes à un collègue. Un enseignant en lettres d'une 50aine d'années, marxiste, très fin, qui avait la réputation d'être homosexuel. Fajardi fut agréablement surpris. Une influence de Claudel, ou peut-être plutôt de Peggy. Le Peggy des vers libres. Mais justement, c'est original, c'est une chose qu'on ne rencontre plus tellement. Sur les démarches à effectuer, il n'avait aucun doute. À l'infini. C'est là que se fait la littérature d'aujourd'hui. Il faut envoyer vos textes à Solers. Un peu surpris, Bruno se fit répéter le nom, s'aperçut qu'il confondait avec une marque de matelas. Puis envoya ses textes. 3 semaines plus tard, il téléphona chez De Noël. À sa grande surprise, Solers lui répondit, proposa un rendez-vous. Il n'avait pas cours le mercredi. C'était facile de faire l'aller-retour dans la journée. Dans le train, il tenta de se plonger dans une curieuse solitude, renonça assez vite, réussit quand même à lire quelques pages de femmes, surtout les passages de cul. Ils avaient rendez-vous dans un café de la rue de l'Université. L'éditeur arriva avec 10 minutes de retard, brandissant le fume-cigarette qui devait faire sa célébrité. « Vous êtes en province ? Mauvais, ça. Faut venir à Paris, tout de suite. Vous avez du talent. » Il annonça à Bruno qu'il allait publier le texte sur Jean-Paul II dans le prochain numéro de l'Infini. Bruno en demeura stupéfait. Il ignorait que Solers était en pleine période contre réforme catholique et multipliait les déclarations enthousiastes en faveur du pape. « Peggy, ça m'éclate !» fit l'éditeur avec élan. « Et Sade, lisez Sade surtout. Mon texte sur les familles ? Ah ouais, très bien aussi. Vous êtes réactionnaire, c'est bien. Tous les grands écrivains sont réactionnaires. Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoïevski, que des réactionnaires. Mais il faut baiser aussi. »
Un extrait donc des Particules élémentaires, un premier livre de Houellebecq que vous avez publié.
C'est amusant les rapports Solaire-Houellebecq. Bon, il se trouve que moi, je connaissais Lars depuis toujours. Hein. J'ai travaillé au Seuil dans le temps, à l'époque de Tel Quel aussi, puis après je suis parti. Mais très vite, ce Lars a senti qu'il fallait faire quelque chose avec Houellebecq, qu'il fallait en quelque sorte le récupérer, le phagocyter, le digérer et le rejeter. Et c'était très ambigu.
Le rejeter.
Le rejeter, oui, enfin le détruire. Parce que ce Lars, c'est un type très, très malin, très opportuniste et persuadé de son importance. Il pensait qu'il serait le grand écrivain de son temps. Bon, c'est un peu raté. Mais quand il a vu surgir et monter la puissance et la gloire de Houellebecq, il y avait deux solutions. Ou l'attaquer bêtement, et comme il est tout sauf bête, il a préféré le cajoler, le flatter. Et Houellebecq, quand même, d'ailleurs ce portrait, qui est un peu un portrait charge, en même temps témoigne de l'admiration. Donc ils ont eu des rapports, c'est un peu un tango, on danse le tango, alors qui fait la femme, qui fait l'homme. Moi je pense que là-dessus, c'est quand même Houellebecq qui a gagné. Mais le cas de Soler, c'est intéressant, parce que d'autres écrivains auraient pu se rapprocher de Houellebecq. Il n'y en a pas tellement qui sont venus tout de suite, il y en a même assez peu. C'est après qu'ils sont tous venus et qu'ils viennent de plus en plus. Mais là, Soler, qui a du pif et qui est intelligent, qui a le sens de la stratégie, s'est dit, celui-là, il ne faut pas que je le laisse passer, il faut que je m'en serve. Et malheureusement, l'autre lui a un peu échappé.
Et l'humour tout de même qu'on entend dans cet extrait des Particules élémentaires.
Il y a beaucoup d'humour. Écoutez, la meilleure définition de Houellebecq, très tôt, c'est un type pour lequel j'ai une certaine estime quand même, qui est Marc Fumaroli, qui est un grand critique qui a écrit des livres magnifiques. Il disait dans un entretien qu'il le comparait à Swift. Et c'est vrai, il y a quelque chose de swiftien chez Houellebecq. Et c'est swiftien parce que c'est à la fois très contrôlé, très maîtrisé, et en même temps, avec une logique, bon, le texte de Swift sur l'instruction sur les domestiques, que vous connaissez sûrement, est un texte admirable. Il est déjà houellebecquien. Hein. Et puis quand on voit ce que raconte les voyages de Gulliver, dedans, il y a des passages terrifiants qui annoncent déjà aussi les temps modernes. Donc Swift et Houellebecq, à mon avis, ce serait plus ça qu'il faudrait faire développer. Je ne sais pas si dans les cahiers de l'air de quelqu'un a eu cette idée, ce serait bien, mais je pense qu'ils n'ont pas eu l'idée. Moi, je pense qu'il y a, c'est un truc à creuser. Si on est universitaire en panne de thèse, il y aurait une thèse à faire sur Swift et Houellebecq.
C'est de l'humour noir ou c'est de l'humour gris? L'humour gris, c'est une expression de Dominique Noguès.
Oui, c'est très noir.
On parle beaucoup dans cette émission.
Oui, je sais, mais moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est très, très noir. Je sais, j'ai lu le livre de Dominique, qui est un très beau livre, dont il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Mais je pense que Houellebecq, c'était vraiment de l'humour noir. C'est noir d'encre. Hein.
Alors, Raphaël Sorin, on peut dire que vous connaissez bien l'édition. Vous avez travaillé dans plusieurs maisons. 5 ans chez Albin Michel, 14 chez Flammarion, 5 ans chez Fayard. Et même si vous n'êtes pas que l'éditeur de Michel Houellebecq, on peut peut-être dire que c'est avec lui, dans les années 2000, que vous êtes devenu l'éditeur peut-être le plus en vue à ce moment-là de Paris. Vous avez fait Michel Houellebecq, Michel Houellebecq vous a fait.
Non, il s'est fait sans moi, il s'est fait. Un écrivain se fait, on va pas... Bon, je l'ai publié, c'est vrai, j'ai pu au moment où c'était important, j'ai donné les moyens d'écrire, mais je n'ai pas fait Houellebecq, il s'est fait tout seul. On n'est pas à l'américaine ici, je sais qu'en Amérique, on fabrique les écrivains, mais qui a fait Faulkner, je ne sais pas. Vous connaissez quelqu'un qui a fait Faulkner ou quelqu'un qui a fait Hemingway? Non, ils se sont fait tout seul. Et je pense que Houellebecq s'est fait tout seul. Bon, je l'ai aidé, c'est tout, et je trouve qu'il pourrait marquer un peu plus de reconnaissance, ça c'est mon petit problème personnel. Mais
et peut-être ne marque-t-il pas de reconnaissance de manière générale,
oui,
que ce soit pour
vous
comme pour les autres.
C'est une règle, je crois qu'il m'avait un jour expliqué le problème que lui posaient les liens d'amitié. Il trouvait que c'était pesant. Donc plutôt que d'avoir des amitiés anciennes et longues, ce que moi je pratique, il préfère des amitiés clignotantes, en disant, voilà. Mais c'est une manière de vivre aussi. Hein.
Mais comment on travaille avec Michel Houellebecq?
Ben on travaille très peu parce que ces manuscrits sont impeccables. Moi, je sais que j'ai eu très peu de corrections à faire. On parle surtout stratégie. Moi, je pense que le plus gros travail que j'ai fait, c'était le lancement des Particules élémentaires. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je m'en suis bien sorti, mais avec son accord, évidemment. Il est très lucide aussi. Il sait très bien où il faut aller. Mais sur les livres même, il n'y a pas de travail. Je me souviens peut-être que au moment du manuscrit de La possibilité du Nil, qui a été publié chez Fayard, donc, avec Claude Durand, qui était aussi un très bon éditeur, avec qui j'ai travaillé dans...
Le dur de dur, comme vous l'appelez.
Comment?
Le dur de dur,
le dur
Durand.
De dur, oui. Alors, Durand m'avait fait une remarque, il avait lu le manuscrit, il lisait toujours très vite, moi aussi je lisais, quand ça valait la peine, je passais la nuit à lire, j'ai lu les particules élémentaires dans la nuit. J'ai lu la possibilité d'une île dans la nuit aussi. Il m'a dit il y a peut-être un problème de ponctuation. C'est ça qui l'avait frappé. Et effectivement, il y avait beaucoup de points-virgules. Alors, on a essayé d'enlever des points-virgules. Mais oui, ça va pas très loin.
Donc, vous avez l'impression que Michel Houellebecq passe beaucoup de temps à travailler, retravailler. Est-ce que c'est un perfectionniste?
Il a failli laisser la peau. Quand il a terminé, c'était un long travail, la possibilité du nid, il est sorti de là, exsangue, très maigre, très fatigué, épuisé, nerveusement épuisé. Et je pense que vraiment, quand il s'y met, il ne fait que ça. Alors maintenant, il se disperse un peu. Je pense que, par exemple, le dernier livre a été écrit un peu vite, Possession, ça se sent. Et le livre d'avant, qui a eu le prix Goncourt, a été...
Soumission.
Pourquoi est-ce que j'ai...
il faudrait l'analyser sans doute.
Ce serait intéressant. Il faudrait repasser la bobine et que je me réécoute. Mais sinon, non, c'est quelqu'un qui médite. C'est très calculé, c'est très écrit, c'est très... Et contrairement à ce que pense Madame Badinter, qui, je ne sais pas si elle l'a vraiment lu, c'est un écrivain, un vrai écrivain. Et c'est aussi un poète.
Et qu'est-ce qui vous semble sa force dans le roman? On a beaucoup parlé de poésie, on en reparlera encore. Dans le roman, qu'est-ce qui vous semble le plus puissant chez Michel Houellebecq?
Moi, je pense que c'est un effet d'ensemble. Hein. Il y a quelque chose d'irréfutable dans les romans. Il y a peu de romanciers dont on peut dire ça. Bon, vous lisez Flaubert, c'est vrai que ça ne pouvait pas être fait autrement. Et les particules élémentaires, c'est un livre assez compliqué, assez complexe. Je ne parle même pas de la possibilité de nul, qui est un livre extrêmement sophistiqué. Mais c'est le côté irrémédiable et irréfutable. C'est ça qui fait la force. C'est pour ça qu'il y a très peu de romans de cette qualité en France. Parce que les gens se donnent pas assez de mal, peut-être. Et puis, ils ne sont pas assez inspirés, ils ne sont pas assez... Houellebecq s'est battu contre beaucoup de choses. Il a réussi à écrire... contre son tempérament, contre ses faiblesses, contre ses hantises. Et c'est un homme qui a triomphé de ses propres difficultés. Et c'est ça qui fait que c'est fort. C'est pour ça que ça passe partout aussi.
Est-ce que vous pensez que la structure chez Michel Houellebecq, l'organisation du roman, est plus importante que la phrase, que...
Moi, je pense que tout est important. C'est important dans l'ensemble. C'est calculé, c'est comme dans une formule mathématique ou chimique. Chaque élément est important, joue un rôle, et la construction d'ensemble est intéressante aussi. Alors c'est quelqu'un qui a réfléchi pas mal sur les sciences. À un moment donné, il était toqué de livres scientifiques. Bon, moi je suis pas tout un scientifique, mais on sent quand même que c'est autre chose que la littérature tout venante, où il y a de la psychologie, où il y a des trucs un peu rabâchés. Là, il y a quelque chose qui pointe, qui est difficile à décrire d'ailleurs. Justement, celui qui l'a très bien décrit, c'est Noguez. Il a très bien décrit la manière d'écrire de Houellebecq, qui est composite, qui est complexe, qui est aussi hétérodoxe. Hein. Ça, c'est pas écrit comme n'importe quel roman. Et ça se sent tout de suite, ça se sent très vite. Et dès qu'on prend une page de lui, on sent qu'il est là, il est derrière. Alors, vous décrire, c'est comme la musique, je sais pas comment on reconnaît. Il aime beaucoup Schubert. Moi aussi, j'aime beaucoup Schubert. Et Schubert, dès les trois premières notes de n'importe quel morceau de Schubert, on reconnaît que c'est du Schubert. Allez savoir pourquoi. Alors là, il faudrait faire des comparaisons. Mais il a quelque chose d'inimitable. Hein. C'est pas un style trafiqué, fabriqué. Il y a quelque chose qui apparaît et qui est là. Et ça, c'est fort.
Et dans ce style, on retrouve une façon de parodier, parfois, d'autres styles, de parodier notamment un parler qui serait le parler qu'on entend, le parler cliché, voire oui. Le parler journalistique. Oui, est-ce que ça vous semble...
Ça fait partie du travail de l'écrivain. Il y a la parlerie, ce qu'on appelle la parlerie, et puis il y a du langage scientifique. Il a introduit... des textes de Wikipédia en les détournant, et quand on les identifie, c'est très amusant parce qu'il y a vraiment un langage Wikipédia hein, oui. Qu'il a très bien.
Et quel est le projet là finalement? De refléter simplement le langage tous les jours?
C'est pas le langage de tous les jours, c'est le langage unique que seul un écrivain peut identifier, authentifier, reproduire. C'est la même chose avec Céline. Céline, on a dit, c'est de l'argot, mais c'est pas tout de l'argot, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Alors, je compare pas du tout le style le travail de Céline avec celui de Houellebecq, sauf dans l'intensité et dans l'incompréhension. C'est-à-dire que maintenant, on commence un peu à comprendre ce que Houellebecq a fait, et j'espère qu'on le comprendra de mieux en mieux, parce que c'est vrai que c'est assez unique.
Et dans la filiation, peut-être aussi, puisque Houellebecq se...
Non, il se revendique pas du tout
de Céline.
Ça l'intéresse pas trop. Non.
Alors revenons à l'histoire de l'édition, si vous le voulez bien, Raphaël Sorin, et notamment à ce moment en 2002 où, de Flammarion, vous décidez de passer chez Fayard, oui. Et se pose la question de savoir si vous allez pouvoir emmener Michel Houellebecq dans vos bagages.
Oui.
Comment ça s'est passé ce moment ?
Très simplement, il a toujours un agent qui s'appelle Samuelson, François Samuelson, qui est aussi un agent de cinéma. Et Houellebecq avait caressé, comme on dit, un rêve qui était de faire un long métrage. Et un long métrage, ça ne peut pas se faire simplement avec un éditeur, il faut un autre appareil économique. Et le seul appareil économique qui permettait ça, c'était le groupe Hachette.
Flammarion ne pouvait pas.
Flammarion n'avait pas de maison de production. Et puis ça coûte cher, un film. Bon, puis il faut trouver des développeurs. Enfin, et donc, avec Samuelson, ils ont décidé, et moi j'étais d'accord, on a un peu comploté avec Claude Durand. Puis surtout Claude Durand, à un moment donné, avait un problème, c'est que la maison Fayard, qui est une très bonne maison pour les traductions et pour les documents, n'était pas armée pour le roman. Elle n'était pas du tout armée. Donc l'idée de faire passer Houellebecq chez Fayard, et c'était une idée à la fois amusante et utile.
Pourquoi amusante ?
Amusante parce que c'est toujours amusant de faucher. Moi, ça m'avait beaucoup amusé. Sur le moment, ça m'a fait rire. Ça devait amuser Houellebecq aussi. Surtout qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui était vivant, qui était un personnage remarquable, qui était M. Lagardère, le père, je parle du père. Et le père, malheureusement, est mort au moment où tout ça s'est joué. Et Arnaud Lagardère, le fils, n'a pas été capable de gérer la chose.
Donc, oui, parce que Fayard fait partie du groupe Hachette, ouais, voilà. Lagardère.
Donc le drame, c'est que le vieux père Lagardère étant mort, on était en présence du fils, qui avait hérité notamment de Houellebecq. Et il y avait des employés, on peut dire ce mot, des employés de Lagardère, qui n'étaient pas du tout favorables à ce projet. Donc c'est parti un peu en quenouille, hein, en jus de boudin. Et c'est bien que Houellebecq a été très déçu, moi aussi d'ailleurs. On a trouvé des producteurs sympathiques, mais pas capables de gérer l'affaire. Et ça donnait un film plutôt raté, qui est celui qui est sorti.
Alors, ça partit en jus de boudin. Et pourtant, au départ, Michel Houellebecq a eu cette phrase, si je me souviens bien. C'est quand même pas mal, les grandes entreprises, oui. Les grands groupes de presse. Oui, évidemment, il y avait un avaloir qui correspondait, oui, voilà, à ça, la puissance bien, de pour la suite, Lagardère, 1,3 million d'euros.
Oui, je crois, enfin, une grosse somme. Mais pour la suite, non, ça n'a pas suivi. C'est la malchance à la fois. Puis c'était couru. Le fait que la maison Hachette, qui avait aussi tout un secteur cinéma, c'est un secteur cinéma qui marchait pas très bien d'ailleurs, alors a confié le projet à un type qui était responsable du secteur télévision, qui était un type tout à fait estimable, mais qui ne pouvait pas gérer le projet, qui ne pouvait pas gérer Houellebecq. Et malgré des tentatives, moi j'ai relu plusieurs versions du scénario, ça n'a pas abouti. Quoi.
Alors qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce film et pourquoi Michel Houellebecq finalement n'est-il pas, selon vous, selon les critiques aussi en général de cinéma, un grand cinéaste ?
Parce que c'est un autre métier d'abord. Bon, il se trouve que moi j'aime beaucoup le cinéma, je suis même ce qu'on appelait autrefois un cinéphile, et les grands films, il faut un nombre incalculable de circonstances pour qu'un grand film existe. Un des miracles du cinéma, c'est le fait que Jean-Luc Godard, qui était inconnu, qui avait des tout petits moyens, il arrive à faire un chef-d'œuvre qui va influencer le cinéma mondial. Bon, Houellebecq n'a pas fait un film équivalent des Particules élémentaires. Il a fait un film qui n'a influencé personne et qui a fait rire, au contraire, contre lui. Mais ça, c'est le drame.
C'était pas le but, ça.
C'est pas le but du tout. Parce que c'est un métier, le cinéma, on dit. Mais c'est pas seulement un métier, il faut qu'il y ait un ensemble. C'est une alchimie très complexe. Regardez la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, il y a eu un phénomène de groupe. Et puis dans la Nouvelle Vague, les gens qui ont vraiment survécu, il y en a très très peu. Il y a Romère, il y a Chabrol, il y a Truffaut, il y a Godard. Et Rivette, ça fait très peu. Alors qu'il y avait plein de jeunes cinéastes qui ont commencé en même temps, je ne sais plus combien il y en avait, mais la liste était interminable. Ils se sont tous plantés parce que ça n'a pas suivi. Il faut qu'il y ait à la fois le public, il faut qu'il y ait l'époque aussi qui s'y prête. Et là, l'époque où est arrivé, quand Houellebecq est arrivé dans le cinéma français n'était pas en état de l'aider, en quelque sorte. Ça aurait été un objet totalement hétérogène et complètement incongru dans le paysage du cinéma français.
Mais alors, il y a tout de même un film avec Michel Houellebecq. Vous allez nous dire si c'est une réussite, selon vous, ou si c'est foiré. Je crois que vous avez dit que c'était foiré, oui, la possibilité du Nil au cinéma.
En en disant du bien.
Et alors, un autre film peut-être foiré, c'est L'enlèvement de Michel Houellebecq.
Oui. Alors j'ai fait la distinction entre foireux et foiré.
Ah d'accord, donc foiré c'est bien, foireux c'est raté.
C'est pas mal, mais foireux c'est vraiment raté. Et voilà. Je crois que ce film dont vous parlez...
De Guillaume Nicloux.
Pardon ?
de Guillaume Nicloux.
Oui, qui est aussi un jeune écrivain que j'ai publié dans le temps. J'ai publié 2 ou 3 romans de lui. Et Nicloux est un personnage intéressant qui a fait des films un peu ratés, un peu avant de trouver sa voie. Et en rencontrant Houellebecq, il a su en faire quelque chose. Oui, ça, c'est le genre de hasard formidable. Il a trouvé Houellebecq au bon moment, au moment où Houellebecq était capable de se lâcher, de faire l'acteur.
Vous avez dit que Michel Houellebecq était le Baudelaire des supermarchés, je crois que vous l'avez dit dans
oui,
une de vos chroniques de Libération.
J'ai repris ça dans Noguez.
Ah.
Et on va le comparer à Buster Keaton aussi.
Oui. Et vous le dites toujours alors.
Bah, il aime beaucoup Baudelaire, moi aussi, c'est vrai. Mais,
oui, mais c'est le supermarché en fait. Si vous l'aviez comparé à Baudelaire, je pense que ça n'aurait pas posé de difficultés.
Non, enfin, mais justement, il fallait, il fallait justement décaler un peu l'admiration pour Baudelaire. Et bon, il se trouve que moi, j'étais aussi intéressé dans ma jeunesse par le pop art. Et le pop art, c'était un groupe aussi d'artistes américains, jeunes, qui ont découvert la beauté des supermarchés. Je pense à Oldenburg ou à Rauschenberg. Et il y a ce côté chez Houellebecq, à partir de choses usuelles, de choses qu'on ne pense pas introduire dans la poésie. Il a introduit ça dans la poésie.
Donc c'est un compliment alors, cette expression.
C'est un très bon compliment, bien sûr. C'est un compliment formidable.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup Raphaël Sorin pour ce premier témoignage sur Michel Houellebecq. Vous restez évidemment avec nous. Dans un instant, nous allons être rejoints par Jacques Henrich pour continuer à parler de l'auteur de Plateforme, sur qui, on le sait donc maintenant, Un cahier de Lerne vient de paraître. Mais pour l'heure, allons voir ce qu'il se passe du côté des revues, et en l'occurrence du côté de la revue Page des Libraires, avec son directeur Georges-Marc Habib. Bonjour Georges-Marc.
Et bonjour Mathieu. Moi, quel plaisir d'être là, c'est à chaque fois renouvelé.
Mais pour nous aussi.
Donc, votre semaine Houellebecq m'a inspiré, bien évidemment, j'en sais rien, mais en tout cas 3 livres, dont le dernier livre de Cécile Coulon, que les libraires évidemment défendent avec beaucoup d'affection. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Monsieur Sorin, mais je vous le conseille vivement. Jeune auteur qui a aujourd'hui 27 ans, qui publie son 7e livre, ça s'appelle 3 saisons d'orage, c'est édité chez Viviane Ami. Et là, Cécile Coulon nous emmène dans un village, ça s'appelle Les Fontaines, où il y a une mine, des paysans, des mineurs, un médecin, et on va suivre comme ça, à travers l'histoire de ce médecin, 3 générations de ce village. Ce qui est formidable dans Cécile Coulon, c'est que, évidemment, elle va nous confronter le village et la ville, elle va nous mettre en scène ce médecin qui va tout faire pour trouver sa place dans ce village rustre, on va dire, comment sa descendance va essayer de s'y installer aussi, et évidemment comment ils vont être rattrapés, on va dire, par le destin, entre guillemets. C'est un texte magnifique avec une noirceur et une poésie qui est vraiment tout à l'honneur de Cécile Coulon.
Et en quoi est-il houellebecquien ce livre?
Et bien justement, dans sa noirceur, elle arrive à dépeindre des personnages, on rentre comme ça dans l'intimité de ces personnages, dans leur atmosphère et dans leur générosité, et en même temps dans tout ce qu'ils ont de noir à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, je pense que ça résonne vraiment avec l'œuvre de Houellebecq.
Houellebecq qui vous a fait penser à un deuxième livre, Georges-Marc.
Un deuxième livre, celui de Karine Risset, qui vient de sortir chez Flammarion, la fille sur la photo. Karine Risset, c'est un auteur qui publie aussi bien en jeunesse qu'en littérature adulte. Et la fille sur la photo, là, elle met en scène une jeune femme, auteure elle-même, et ça, moi, j'adore quand les écrivains parlent d'autres écrivains, enfin d'écrivains, parce que je trouve qu'ils y mettent, pour le coup, beaucoup d'émotions là aussi, qui a été la compagne d'un réalisateur de 20 ans son aîné, et qui s'est occupée surtout des enfants de ce réalisateur. Et donc Karine Risset nous raconte comment cette femme, au bout de 10 ans de vie commune, 10 ans à passer à s'occuper de ses enfants, a décidé de quitter cet homme, et en même temps comment cette histoire la rattrape, parce que cet homme, un an après, la rappelle pour venir au chevet de sa plus jeune fille qui est malade. Elle interroge comme ça tout le questionnement de la vie de cette femme qui a tout mis dans cette vie-là, et en même temps qui a décidé de tout lâcher à un moment donné, mais qui se fait rattraper par l'amour maternel, alors qu'elle-même a décidé de ne pas être une mère.
Karine Risset chez Flammarion, et puis pour terminer chez Albin Michel, le deuxième livre de Frédéric Viguet.
Aveu de faiblesse. Et alors là, moi, j'avoue que je suis tombé un peu surpris par ce livre-là. Je ne connaissais pas Monsieur Viguier, je n'avais pas lu son premier. Mais là, il nous met en scène un jeune adolescent, Yvan, gros, laid, roux, mis au banc par tous ses petits camarades, chouchouté par sa mère, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de plus difficile pour un jeune homme de 17 ans. Il a une habitude avec sa mère, c'est de collectionner les étiquettes de boîtes de fromage. Et un jour, la police arrive chez lui, elle arrête, soupçonné d'un meurtre d'un jeune garçon de 8 ans qu'il connaissait, un de ses voisins, etc. Et là, on va suivre tout le parcours de ce jeune homme. Le Viguier nous met en scène, donc le narrateur étant ce jeune homme qui finit donc en prison et qui va nous raconter toute l'histoire de ce qu'il s'est passé, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé en prison, comment lui se défend comme innocent et comment il va nous raconter son quotidien de jeune homme comme ça, martyrisé, bafoué et dont la justice va le condamné par avance, quoi. Voilà. C'est le destin d'un jeune homme assez étonnant et en même temps avec une vraie surprise à la fin. Enfin, un roman qui, moi, m'a laissé vraiment avec une belle surprise, quoi.
Ne dévoilons pas la fin. Merci beaucoup, Georges Marx. Si on veut se procurer la revue Page, comment fait-on ?
Eh bien, on va en librairie, évidemment, ou on s'abonne sur pagedeslibraires.com. Merci, Mathieu.
À très bientôt. Accompagné des auteurs, seconde partie, nous continuons de converser sur la figure de Michel Houellebecq avec à présent Jacques Henric qui a participé à la rédaction du Cahier de Lerne consacré à l'auteur d'extension du domaine de la lutte, auteur dont on sait qu'il n'a pas toujours été psychologiquement très en forme.
La dépression n'a pas du tout des causes psychologiques, à mon avis, c'est... Il y a un système de valeurs, un système social qui clairement, l'efficacité économique et le potentiel érotique diminuant inéluctablement avec l'âge, fait qu'on est forcément guetté par une dépression à un moment ou à un autre. Ça me paraît absolument inévitable, enfin il n'y a que des dépressifs ou des futurs dépressifs. Et... aucune psychothérapie n'y changera rien.
Bonjour Jacques Henric.
Bonjour.
Alors votre article dans Lerne s'appelle « D'une solitude l'autre, Houellebecq versus bataille, point d'interrogation ». Vous voyez une extrême solitude chez Michel Houellebecq. Cette archive, d'une certaine façon, corrobore un petit peu l'impression que vous donnez dans votre article.
Oui, c'est un rapprochement improbable.
Entre Bataille et Houellebecq ?
Oui, je suppose que les lecteurs de Houellebecq ont dû ou sourire ou paraître incrédules. Et quant aux lecteurs de Bataille, je pense qu'ils ont dû probablement faire des bonds en l'air.
Qu'est-ce qui est le plus improbable, finalement ? C'est la star d'un côté,
c'est des figures absolument apparemment antithétiques. Il y en a un, Bataille, qui est un auteur qui a publié des livres d'abord de façon anonyme, qui a mis très longtemps, par exemple, à publier certains livres et sous son nom. Je crois que Le Bleu du Ciel a dû mettre 10 ans avant de pouvoir être publié. C'est quelqu'un qui a vécu très modestement. Il a fallu que des artistes fassent une vente publique pour pouvoir l'aider. Il devait avoir une petite retraite de la Bibliothèque nationale. En face, on a un auteur qui est une star, mondialement connu, sûrement très riche, parce qu'il gagne beaucoup d'argent avec ses ventes. Bon, donc rien apparemment ne peut rapprocher ces deux écrivains, et pas vraiment leur œuvre non plus d'ailleurs, hein. Ce sont des œuvres complètement différentes. Pourtant, j'ai... trouvé, mais ça a d'abord été de façon c'était plutôt des images au début. Hein. Je devais faire ce texte.
Ça vous est venu spontanément, ce rapprochement.
Je devais faire ce texte pour les cahiers de Lerne. Je suis pas du tout un spécialiste de Houellebecq. D'ailleurs, au début, tout m'éloignait de Michel Houellebecq. Donc, je n'avais aucune aucune raison de travailler ou de. D'ailleurs, j'ai pas vraiment écrit sur les livres de Houellebecq. J'ai fait des entretiens avec lui dans Art Press. Je serais incapable d'écrire sur sa poésie que j'aime beaucoup. Je le dis tout de suite que c'est même la partie de l'œuvre qui m'intéresse le plus. Et là, je serais d'accord.
Avec Raphaël Sorin.
Avec Raphaël Sorin.
Et avec la plupart des invités.
Et avec Thomas Kler,
je crois, qui est un
très... Bon, alors, par exemple, si je dis ça à mon camarade Solers, là, il fait des bons, lui. Alors, il a horreur de ça. Bon,
Qu'est-ce qu'il reproche à la poésie de Michel Houellebecq?
Je pense que c'est déjà sa forme, probablement, mais je rappelle dans le texte que j'ai fait dans le cahier de Lerne que c'était une critique que ses amis surréalistes avaient adressée à Aragon, parce qu'il s'était mis à Aragon à écrire aussi des textes, des poèmes, avec de l'alexandrin, des rimes, etc. Hein. Bon. Donc, rien ne me préparait à ça, sauf ces deux images, en fait, qui m'ont touché, et à partir de quoi j'ai fait ce texte, parce que je n'avais pas du tout comment j'allais en parler de Houellebecq. Il y a eu beaucoup d'insistance d'Agathe pour que je fasse ce texte, mais je ne suis pas capable. Bon. Et puis, brusquement, deux images. J'étais en train de préparer un numéro sur Bataille, justement, et je me souviens qu'on avait publié dans ce numéro, qui n'est pas si vieux que ça, un texte de Solers, où il disait qu'il avait rencontré un jour Bataille dans un café. Ils sont allés chez Gallimard pour il y avait une petite fête. Et quand ils sont arrivés tous les deux là où se passait la petite fête, il y avait des journalistes, il y avait des écrivains. Brusquement, il y a eu un silence. Les gens sont écartés. Solers dit c'est un peu comme si j'étais rentré avec le diable. Et brusquement, Solers s'est dit mais cet homme est vraiment un solitaire incroyable.
Un pestiféré aussi.
Pestiféré, voilà. Alors, pestiféré, ça on verra pour Houellebecq, mais solitaire, oui. Et la deuxième image que j'ai, c'était aussi le hasard de la vie. On avait, Catherine Millet et moi, un dialogue avec Houellebecq à Perpignan au mois de juin. Houellebecq est arrivé dans une immense chapelle où il y avait un monde fou. Il y avait évidemment, quand il est entré, les micros, les caméras, etc. Bon. Et puis, j'ai vu ce petit bonhomme, là, avec sa parka, pas effrayé, mais un peu...
Un peu bousculé.
Et brusquement, je me suis dit, mais ce type est complètement seul au milieu de cette foule. Bon, et puis ça s'est accentué, il est venu passer 2-3 jours chez nous dans notre maison du midi, et il y a eu la mort de Dantec aussi, et la mort de Dantec l'a complètement vraiment abattu, il était en pleurs, disant j'ai plus d'amis, etc. Et puis aussi une image où il était avec sa... À un moment, Catherine Millet lui dit, mais vous savez Michel, vous pouvez venir dans notre pièce en haut, là, pour c'est de la nuit, si vous avez besoin de vous faire du café. Et alors il dit, non, mais j'ai ma petite cafetière, et je la trimballe partout. Et d'un seul coup, j'ai eu ce sentiment qu'il y avait vraiment deux grands solitaires, voilà. Le point de départ.
Raphaël Sorin, vous qui connaissez d'une autre façon Michel Houellebecq, oui, diriez-vous que c'est un grand solitaire?
J'ai aussi connu Dantec, hein, que j'aimais beaucoup. Bon, à la fin, Dantec a explosé en vol, il est devenu un peu cinglé, même beaucoup. Houellebecq estimait Dantec et Dantec estimait Houellebecq. Et je trouve regrettable, j'ai feuilleté le cahier de l'air, de voir qu'il n'y a rien sur les relations Dantec-Houellebecq.
Et sur la solitude du personnage?
Oui, Dantec aussi il est allé vivre au Canada, il s'est exilé au Canada. Et quand il venait à Paris, bon, il voyait 2-3 personnes, mais il était aussi assez, de manière effrayante, seul. Et c'est des gens intéressants parce que ça n'accroche pas. Hein. Dantec, c'est foutu, c'est pour toujours. Houellebecq, c'est vrai, il y a ce côté à part. Pour moi, c'est un ovni, même physiquement. La fois que j'ai vu Houellebecq, donc quand on voit quelqu'un, surtout un écrivain, la première fois, on se souvient. Et j'ai vu arriver un être, mais qui était tout à fait d'ailleurs. Hein. Il avait pas de visage, il regardait pas en face, il n'existait pas. Il essayait de disparaître. Et ça m'a beaucoup frappé, puisque même après, quand il est devenu un personnage célèbre, glorieux, une star, il y a toujours ce côté-là, il y a cette première image. Et vous parlez de Bataille, et il y a un document formidable du Maillet. Il y a Bataille et lecture pour tous. Et la manière dont Bataille a du mal à s'exprimer, à parler, ça me fait penser à la manière dont Houellebecq, quand il passe aussi à la télévision, a dit, il y a vraiment des ressemblances, non pas physiques, mais de comportement entre les deux. C'est vrai, c'est juste.
Donc Jacques-Henri, vous vous êtes finalement pris d'amitié pour Houellebecq, vous avez été touché par lui et par cette solitude, et pourtant, il est sans doute, sur le papier, votre exact opposé. Il n'aime pas la boxe, il déteste Picasso, que vous adorez. L'art contemporain, ça ne doit pas être tellement son truc. Finalement, qu'est-ce qui vous a réuni?
En plus, j'ajoute, moi, que quand je dis que rien ne pouvait me pousser vers l'œuvre de Houellebecq, c'est que, j'aime pas trop la poésie, mais je ne savais pas, je ne l'avais pas lu. Je l'ai lu très tard, il faut dire que j'ai lu très tard les livres de Houellebecq. La poésie, je me disais... A priori, toute cette poésie qui se faisait à l'époque, très métaphysique, un petit peu dans la lignée de Char, toute cette sous-philosophie venue d'Heidegger qui s'exprimait, et tout ça m'était complètement étranger. Bon. Mais je ne savais pas ce que c'était la poésie de Houellebecq. En plus, les romans, j'apprenais quand même que ces romans que je n'avais pas lus, c'était des romans très traditionnels, vraiment avec des personnages, un récit... Tout ce qui, moi, ne m'intéressait pas, ça n'a jamais été, bon, c'est mon vieux passé peut-être tel qu'il y a, avant-gardiste, mais ce type de roman, il continue à ne pas m'intéresser, et je pense que c'est vraiment, c'est le seul qui fait des romans, qui, à mon avis, voilà, ont un très grand intérêt. Voilà, le seul.
Écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Jacques Henrich et Raphaël Sorin pour parler de Michel Houellebecq. Remontons un peu le temps, Jacques Henrich, comme vous le faites dans votre article. Vous commencez en précisant que quand Michel Houellebecq naît, vous avez 18 ans, dans les années 50-60, qui sont les années de la guerre d'Algérie. Vous êtes à l'époque un jeune communiste. Vous allez bientôt écrire dans les lettres françaises d'Aragon. Et là encore, votre passé de gauche semble vous faire regarder Michel Houellebecq d'une manière particulière.
Bah, voilà, il se trouve que dans Art Press, il y avait une bande de jeunes gens qui étaient les gens qui faisaient la revue Perpendiculaire. Houellebecq
était un petit peu le porte-drapeau de cette revue.
Du comité de rédaction, je pense. Hein.
Bon. C'était une revue très, très à gauche, disons, et expérimentale.
Non, c'est une revue quoi plutôt, comment on peut dire, un peu dada, un peu...
Anarcho-paysanne.
Il venait de la campagne.
Il faisait des soirées très marrantes.
Oui, très marrantes. Gratte-moi le cul. Les soirées de gratte-moi le cul, c'était génial.
Ça, il faut en parler, parce que c'était quand même très drôle.
Ah oui, c'était très drôle.
Vas-y, dis-en un mot, alors, si ça conduit à Michel Houellebecq, évidemment.
Il venait de Niort, la plupart d'entre eux étaient des jeunes Niortais. Ils me faisaient un peu penser à la bande du Grand Jeu. Ils sont commencé très jeunes, Doma et compagnie.
En plus drôle. Hein.
En plus drôle. Et leur truc, c'était des parodies. Et ils aimaient les trucs merdiques. Et le plus brillant d'entre eux, à part Houellebecq, c'était Joinet, qui était vraiment un type très remarquable.
Qui maintenant fait une carrière sur scène formidable.
Oui, et qui a écrit des livres très marrants sur les nains de jardin, par exemple. Et il y avait tout ce côté-là. Et c'est resté un peu dans l'esprit de Houellebecq. Donc, j'ai assisté, on peut dire, à la création de la revue Perpendiculaire, sans en faire partie. Et ces jeunes gens se sont entichés dans un premier temps de Houellebecq. Et puis, quand Houellebecq a commencé à avoir du succès, ils ont découvert que c'était un facho. Et ils ont rejeté tout ça avec violence.
Enfin, ils ont découvert que c'était un facho. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils ont découvert...
Je pense que c'est le mot facho, c'est un peu fort.
Était réactionnaire, c'est ça?
Je me souviens d'une polémique.
Il était misogyne, c'est allé très loin. Ils ont publié dans Le Monde un article absolument scandaleux, auquel a répondu d'ailleurs Noguès, déjà, qui l'accusait de tous les maux.
Oui, l'air du flou, ça s'appelait cet article.
L'air du flou, oui. Et bon, en tout cas, moi j'avais combiné cette idée amusante de lancer à la fois les particules élémentaires et deux romans de ces jeunes gens. Bourriaud, qui depuis est devenu un pont dans l'art contemporain,
qui est du Châtelet. Directeur de l'école des Beaux-Arts de Paris.
Qui n'est plus le directeur.
Qu'il
a été. Donc j'avais fait un lancement, si vous voulez, et j'avais un peu la nostalgie telle qu'elle. Moi aussi j'ai connu telle qu'elle, en me disant il faut qu'on refasse un groupe. Mais tout en n'ayant aucun espoir dans le fait que ça pouvait recommencer. Mais j'avais un peu cette idée. Et ça s'est disloqué très vite, parce qu'ils ont attaqué Houellebecq, qui avait du succès. Eux n'en avaient pas. Et moi, j'ai très mal pris la chose.
Jacques Henrich, oui. La revue Perpendiculaire, finalement, c'est au moment de la sortie des particules élémentaires qu'elle se disloque. On attaque Houellebecq, on l'expulse, c'est ça. La revue, finalement, explose. Et là, on peut retrouver un petit peu Bataille, parce que on a accusé également Bataille, vous l'expliquez dans votre article, d'être fasciste, sans doute en le comprenant mal. Et comme vous expliquez que cette même accusation pèse sur les épaules de Michel Houellebecq. Et là aussi, vous faites le parallèle entre les deux écrivains.
Oui, il faut que je revienne quand même un petit peu à cette époque. Il se trouve que, d'abord, le premier article qui a été publié sur Houellebecq, c'était, une interview, ou peut-être un texte, mais c'était très positif. Bon. Et puis, il y a eu, à ce moment-là, nous, on était à Art Press avec cette bande de jeunes, comme ça, qui, moi, je les trouvais sympathiques parce que, pour une fois, ils avaient un réflexe politique et ça me rappelait un peu tel quel. Je me disais, tiens, ils s'aident pas sur un truc politique dans la polémique avec Houellebecq. Comme j'avais pas lu Houellebecq, mais qui m'était très sympathique comme personnage. Donc déjà, j'avais une sympathie. Il y a eu des articles qui ont été publiés à ce moment-là, après avoir défendu Houellebecq, dans Art Press, qui étaient très hostiles. Bon. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, Houellebecq, là, dans cette soirée dont je parlais là, il y a quelques instants, à un moment, dit à Catherine Millet et à moi, « Mais vous savez que c'est vous qui avez utilisé et inventé ce terme, les nouveaux réactionnaires ?» Alors, j'étais un peu comme ça pris de court, Catherine aussi. Puis en réfléchissant, je me dis, mais oui, c'est vrai. Il y avait eu en effet des articles dans Art Press, notamment, je crois, sous la signature d'un Scarpetta, qui était une charge très violente.
Scarpetta qui était très hostile à Houellebecq, voilà. Et au Perpendiculaire.
Bon. Et il y a eu aussi un article un peu plus tard, mais plus mesuré, je crois, de Philippe Forest. Bon, moi, je dois vous dire, je n'avais pas vraiment lu Houellebecq, je ne pouvais pas juger, mais ça m'était sympathique. Mais il y a une chose qui m'a tout de suite, braqué vraiment, c'est d'une part le pamphlet ensuite qui est apparu de Daniel Lindenberg sur les nouveaux réactionnaires, où il y avait toute une liste de gens, il y avait Finkielkraut, Dantec, Houellebecq, etc. Et il y avait, et là c'était quelque chose qui m'a alerté, il y avait Philippe Muret. Or Philippe Muret était un ami avec qui j'ai des liens d'amitié très profonds, que j'aimais beaucoup et qui était un grand collaborateur d'Art Press. Et je me suis dit, si ces gens traitent Muret comme nouveau réactionnaire, je vais quand même y mettre le nez. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé dans Art Press à défendre Houellebecq.
Voilà. Mais alors, très rapidement, cette accusation quand même de réactionnaire, d'islamophobe, on en a entendu parler aussi pour soumission, est-ce que vous comprenez qu'on puisse l'affaire Jacques Henrich, ou
non.
Est-ce que ça vous semble complètement aberrant?
Non. Alors là, revenons à soumission, je trouve la façon dont ce livre a été reçu par les politiques, j'ai quand même le souvenir de M. Valls qui dit « Je n'ai pas lu le livre, Premier ministre, je n'ai pas lu le livre, mais je suis contre les livres racistes, etc., islamophobes, enfin la vieille histoire de l'islamophobie qui continue d'ailleurs aujourd'hui à faire florès. Hein, » bon. Donc, il y a eu ça, il y a eu des articles extrêmement violents, je vous rappelle quand même l'article du Monde qui a été extrêmement violent contre Houellebecq. C'était une levée de bouclier contre Houellebecq à l'époque. Et puis, il y a eu le Monde a réinsisté en demandant un article à Christine Angot, qui était une saloperie totale, enfin
sans nom.
C'est même une honte qu'un journal ait publié ça.
Sur le fond, vous ne voyez pas rien qui soit réactionnaire.
Rien du tout, non. Je trouve que c'est un livre, au contraire, formidable. Qui,
dans celui-là ou dans les autres.
Noguès, pour revenir à lui, il avait écrit un article formidable qui s'appelait « La rage de ne pas lire ». Et ces gens-là, Valls en tête, évidemment, on voit ça l'amener, d'ailleurs, le pauvre vieux, c'est-à-dire aux oubliettes, dans les poubelles de l'histoire.
C'est peut-être pas ça directement qui lui a fait perdre la primaire.
Non, mais il le méritait de la perdre, et d'aller dans les poubelles de l'histoire.
Et si je peux ajouter une chose quand même, le résultat de tout ça, il faut quand même le dire, parce que c'est pas souvent dit, c'est que ça a eu pour résultat de faire passer Houellebecq pour un type très, très hostile à l'islam, etc., et du coup, d'être obligé d'être accompagné pendant 2 ans, jour et nuit, par des flics. Parce qu'il y avait une menace de mort très sérieuse contre lui. Je pense que les gens qui ont écrit, qui ont eu la légèreté d'écrire ces saloperies sur Houellebecq, devraient se dire que si jamais il y avait eu un attentat, j'aurais pas dit ils sont responsables, mais ils auraient une part de responsabilité intellectuelle, je trouve.
Vraiment. Il n'y a pas eu de provocation de sa part aussi?
Il n'y a pas de provocation dans le livre. Dans Soumission,
mais
c'est un livre extrêmement
dans le
serein.
Livre, dans le livre qui d'ailleurs peut faire penser d'ailleurs à une farce qui est assez drôle, au fond, Soumission, peut-être dans la manière dont il ne dément pas dans les interviews. Il aime la provocation quand il répond aux journalistes.
Il s'est assez mal défendu au moment de Soumission. Il n'a pas eu de bons avocats. Mais moi, je pense que si j'avais été son éditeur à ce moment-là, je l'aurais mieux défendu. Mais
ça.
Non, mais sans blague. Parce que moi, j'étais quand même soumis aussi à des attaques très violentes au moment de Plateforme. Ça, on l'a oublié. Au moment de Plateforme, il y a eu un procès quand même avec la Mosquée de Paris et la Mecque. Hein. Alors, il fallait défendre Houellebecq. Et je l'ai fait.
On pourrait continuer longtemps sur ce sujet, Raphaël Sorin, Jacques Henrique. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Michel Houellebecq. Aujourd'hui, Jacques Henrique, on peut retrouver votre article dans les Cahiers de Lerne. J'ajoute que les œuvres complètes de Michel Houellebecq sont parues chez Flammarion dans la collection 1001 pages. Demain, c'est en compagnie de l'universitaire Bruno Viard que se poursuivra notre semaine. On parlera avec lui notamment des contradictions de l'auteur des particules élémentaires. On parlera également de sa vision de mai 68. Mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment de retrouver Jacques Bonnafé et la poésie d'Eugenio de Andrade.
Bonjour, deuxième jour avec Eugenio de Andrade, le poète portugais. On va continuer à se promener à moitié à poil dans les poèmes de matière solaire. Bien sûr, tu les désires, ces corps, où le temps n'a pas encore planté ses cornes profondes. Le désir n'est-il pas l'ami le plus intime du soleil? Oui, tu les désires, comme si chacun d'eux était le dernier corps que ton corps ait le pouvoir d'aimer. Autre poème. Le sourire ouvert contre le mur. Exactement comme les herbes, il est très ancien. Et par-dessus les herbes et le mur, il se penche sur le chemin. Qui l'arrache et avec lui l'emportera? Autre poème. Le matin arrêté, le bleu, la profondeur de la pupille. Ce n'est pas encore la soif, la meute, la fièvre, le torse nu, la lumière vacille. Et nous aussi un petit peu, on a besoin de se remettre avec Paul Valéry qui vient à passer avec son Cimetière marin, poème du miroitement. La scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain. Vous en voulez une deuxième? La scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence, dans une bouche où sa forme se meurt, je hume ici ma future fumée, et le ciel chante à l'âme consumée, le changement des rives en rumeur. Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change, après tant d'orgueil, après tant d'étranges oisivetés, mais pleine de pouvoir, je m'abandonne à ce brillant espace. Sur les maisons des morts, mon ombre passe, qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. Toute petite bifurcation, on change, mais toujours le soleil, bientôt le soleil. C'est un texte de Ludovic Janvier paru aux éditions Floic, dans lequel il fait un portrait du peintre Bonnard. Par beau temps, mais frais, il y a du vermillon dans les ombres orangées et du violet dans les gris. Depuis le temps, on dirait que voir n'a jamais tout à fait lieu, mais cherche constamment son lieu, sa juste position, sa réussite, pour le jamais content qui traverse en direction d'on ne sait quoi, désirant quoi, signifiant quoi. Radoté par le paysage, ressassé par l'air, par l'œil, fuite à calmer, voix perdue, c'est le peintre Bonnard qui s'en prend à lui-même. On ne parle plus de matière solaire entre lumière et silence, non, c'est un autoportrait du poète Janvier en bonhomme Bonnard, amoureux de la lumière tremblante. Paysan, va, paysan, toi aussi, paysan par l'extase imparfaite, paysan par l'absolu en miettes, par la vacance impure, paysan par l'acmé qui foire, paysan par les bagatelles et les amuse-gueules, paysan par les trompe-la-faim, gagne petit, perdant, perdu, paysan quoi.
Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques.
I'm not afraid to die.